Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Depuis plusieurs émissions, nous nous demandons quelle est la place du chrétien dans la société et quelle influence peut-il y exercer.
Nous allons aborder ces thèmes avec l'aide de notre invité Robert. Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons parlé du rôle du chrétien auprès des personnes vulnérables ou marginalisées, telles que les veuves et les orphelins. Mais quel va être notre sujet de discussion aujourd'hui?
Jusqu'à présent, nous n'avons pas abordé le rôle spirituel du chrétien au sein de la société. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation. Autrement dit, du chrétien en tant que messager, porteur d'une bonne nouvelle de la part de Jésus-Christ. Pour commencer, écoutons ensemble une lecture biblique tirée de l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 46 à 48.
« Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. »
Robin, rappelez-nous le contexte de ces versets.
Jésus a prononcé ces paroles peu de temps après sa résurrection, car il est apparu auprès des disciples. D'abord, afin de les rassurer et de leur prouver qu'il était bien revenu à la vie, et ensuite, afin de leur confier une mission importante. En fait, l'annonce de cette mission apparaît dans chacun des évangiles, et si elle y est représentée de façon un peu différente, toutefois, le contenu demeure essentiellement le même.
Expliquez-nous en quoi consiste cette mission que Jésus a confiée à l'Église.
Jésus nous a confié un message à annoncer, et il a beaucoup insisté pour que ce message soit annoncé à toutes les nations et à tous les peuples de la terre.
Parlons pour commencer de ce message. Quel est-il?
En bref, nous avons pour devoir d'annoncer et d'enseigner la vérité concernant Jésus-Christ. Et ce message devrait inclure les éléments suivants. Les faits historiques se rapportant à Jésus, tels qu'ils sont relatés dans les évangiles. Jésus est mort, il est crucifié, puis il est ressuscité. Ensuite, il faut expliquer le sens de ces faits historiques. Que signifie la mort de Jésus? Que signifie sa résurrection? Il faut que les êtres humains comprennent que ces événements ont un sens, car à travers eux, Dieu déclare et prouve que Jésus est le seul Seigneur, établi au-dessus de toute chose. Jésus est le seul Sauveur, il est digne de confiance. Par sa mort sur la croix, nous recevons le pardon de nos péchés. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous avons l'espérance de la vie éternelle.
Autrement dit, ce message est personnel, il est pertinent, il s'adresse à tous.
Absolument. La croix et la résurrection ne sont pas des événements qui appartiennent à un passé lointain et qui ne nous touchent pas aujourd'hui. Au contraire, à l'écoute de ce message, tous doivent y répondre. Tous doivent prendre une décision, car il inclut un appel à la repentance et à mettre sa foi en Jésus-Christ, afin de bénéficier de toutes les promesses de Dieu. Ainsi, notre tâche consiste non seulement à communiquer ce message, mais aussi à persuader les hommes et les femmes de l'accepter.
Ainsi, Jésus nous a confié un message que nous devons transmettre au monde entier. Mais comment devons-nous le communiquer ?
Par tous les moyens justes possibles.
Votre réponse laisse supposer qu'il existe des moyens qui sont injustes. Quels sont-ils?
Nous ne devons pas contraindre les gens à accepter ce message en usant de violence ou en ayant recours à la menace. Nous ne devons pas non plus influencer le choix des personnes en leur offrant un gain financier ou autre avantage matériel. Nous ne devons pas transformer ou tordre le message de Jésus pour le faire paraître plus attrayant ou facile à accepter.
Merci Robin. Nous constatons que la manipulation sous toutes ses formes est à bannir. Mais revenons aux moyens disponibles pour communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Dans le livre biblique, nommé les Actes des Apôtres, nous apercevons que partout où les chrétiens se rendaient, ils annonçaient le message que Jésus leur avait confié. Certains le faisaient aux yeux de tous, sur les places publiques. D'autres tenaient des réunions dans des lieux privés. D'autres encore saisissaient toutes les occasions possibles, tout simplement pour témoigner de leur foi à ceux qu'ils rencontraient sur les lieux de leur travail ou en se déplaçant d'un endroit à un autre. Dieu ne nous a pas tous appelés à devenir des prédicateurs pour que nous prêchions devant les foules, mais nous devons tous être prêts et capables de rendre témoignage de notre foi et de parler de Jésus aux personnes que nous côtoyons au quotidien.
Vous semblez nous encourager à suivre l'exemple cité dans les Actes des Apôtres. Mais que pensez-vous des moyens modernes de communication qui n'existaient pas il y a 2000 ans?
Vous parlez d'innovations technologiques telles que la radio, la télévision et l'Internet, par exemple.
Oui, c'est exact.
Ces technologies sont des outils que Dieu a mis à notre disposition. Il est possible d'en faire un bon usage, même si chaque technologie présente des avantages et des inconvénients. Cependant, ces moyens de communication doivent compléter le témoignage des chrétiens et des églises sur place, et non le remplacer entièrement. Le plus important est que chaque chrétien, là où il se trouve, rende témoignage de Jésus-Christ, selon les opportunités qui se présentent à lui. Chaque chrétien doit chercher à bien comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile, afin de pouvoir l'expliquer, la colporter autour de lui. Celui qui aime le Seigneur peut raconter la façon dont Dieu agit dans sa propre vie. Le témoignage personnel donné par le biais des amitiés et des relations permet que Christ soit proclamé sur nos lèvres. Combien il est important de faire connaître le Christ, de parler de celui que nous aimons, par tous les moyens mis à notre disposition.
Et ce message doit être annoncé à toutes les nations.
Et nous pouvons même ajouter à tous les peuples et à toutes les tribus, selon le verset trouvé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, verset 9, qui annonce « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches. Et ils avaient à la main des branches de palmiers. » L'apôtre Jean a eu une vision des lieux célestes. Autour du trône de Dieu, des personnes du monde entier étaient présentes pour l'adorer. Il n'y a aucun doute possible. L'annonce de l'Évangile à travers le monde entier fait partie des desseins de Dieu pour nous.
Mais comment nos amis auditeurs peuvent-ils s'impliquer?
D'abord, il est important que tout chrétien s'intéresse au progrès de la bonne nouvelle dans d'autres pays que le sien. Et il peut participer activement à ce progrès en ayant recours à la prière. Toutefois, il est possible que dans sa propre ville ou son propre village, il se trouve des personnes d'origine différente, des personnes venant d'autres pays ou d'autres tribus qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre le message formidable de Jésus-Christ. Si nous en avons l'occasion, nous pouvons leur parler de Jésus et leur donner la possibilité de découvrir sa grâce et son amour. Nous ne devons pas garder un si grand trésor pour nous-mêmes, un trésor que l'Éternel a destiné à tous.
Merci Robin. Nous devons nous arrêter là, mais vous serez de retour parmi nous pour continuer nos discussions la prochaine fois.
Merci Yann, et au revoir à tous.
Merci Robert pour vos enseignements clairs et instructifs sur ce thème si important. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique, dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Merci Sandra. À présent, notre invité Étienne va réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Aujourd'hui, il abordera la qualité de la patience. Et je lui cède tout de suite la parole.
Merci Yann pour cette introduction. Et bonjour à tous. Qu'est-ce donc que la patience? Écoutons les définitions du dictionnaire Le Larousse. D'abord, la patience est l'aptitude à ne pas s'énerver face aux difficultés, à supporter les défaillances et les erreurs d'autres personnes. Et ensuite, la patience est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Et enfin, la patience est la persévérance, la constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. Alors, laquelle de ces définitions faut-il choisir concernant la patience que l'esprit désire faire fructifier dans nos vies? Selon les savants, le mot grec à l'origine correspondrait plutôt à la première définition apportée. Ainsi, la patience est la qualité ou la vertu qui consiste à supporter sans s'irriter le comportement pénible de quelqu'un d'autre. Une lecture des évangiles nous montre que Jésus portait ce fruit et il le portait en abondance. Et tout d'abord, envers ses disciples. Leur compréhension plutôt lente à comprendre le message et l'enseignement de Jésus, le fait qu'ils l'interprétaient par moments à tort et à travers, tout cela a dû mettre la patience de Jésus à rude épreuve. Pourtant, le Seigneur ne s'est jamais énervé ni n'a renvoyé ses hommes. Au contraire, il leur répétait le message de Dieu autant de fois que cela était nécessaire. Il arrivait aussi que les disciples se disputent entre eux, qu'ils prononcent des incohérences, affirmant savoir mieux que Jésus ou agissant de façon intéressée ou égoïste, visant des objectifs allant à l'encontre de l'Évangile. Et pourtant, Jésus a tout supporté, il leur a tout pardonné. Cela ne veut pas dire qu'il était indifférent à leurs fautes, loin de là. Jésus voulait que ses disciples comprennent, il voulait qu'ils fassent des progrès vers une plus grande maturité spirituelle et qu'ils apprennent à vivre sous la grâce de Dieu. Toutefois, Jésus savait que la colère accomplit peu de choses, que le fait de s'énerver fait plus de mal que de bien. Alors, il reprenait et corrigeait ses disciples, mais avec douceur, compréhension et compassion, afin de mieux les façonner à son image. Sommes-nous bien mieux que les disciples dont parlent les évangiles? En ce qui me concerne, je dois avouer que je ne le suis pas. Et nous devons tous être reconnaissants qu'aujourd'hui encore, Jésus fasse preuve de tant de patience à notre égard. Que de fois nous l'avons déçu, par notre comportement, par nos paroles. Nous sommes si lents à assimiler les leçons qu'il voudrait nous enseigner, et nous progressons si péniblement sur le chemin qui conduit à la maturité spirituelle. Jésus est patient envers nous, et il nous pardonne autant de fois que cela est nécessaire. Jésus demeure patient envers nous, et il nous répète les leçons précieuses de sa parole autant de fois qu'il nous faut les écouter. Il est patient, il ne perd pas courage en ce qui nous concerne. Il est patient et il demeurera toujours avec nous. Jamais il ne nous abandonnera.
Merci Étienne pour ces belles leçons sur la patience de Jésus-Christ à notre égard. La prochaine fois, Étienne nous parlera de la patience dont nous devons tous faire preuve les uns envers les autres.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir. Et que Dieu vous bénisse.